Voilà, vous avez le titre sous les yeux. J'ai envie de vous parler de venir sur le sujet de la comparaison. Il y a un proverbe qui dit que comparaison n'est pas raison. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est juste pour nous mettre en garde que toute comparaison, ne fait pas toujours sens et mérite d'être prise avec un petit peu de recul. Alors ça, c'est un vieux proverbe qui date du XIIIe siècle, d'après ce que j'ai compris. Et je me suis dit, allons regarder ce que la Bible nous dit à ce sujet-là. Et ce matin, alors, je vous partage avec plaisir le résultat de mes réflexions, de mes recherches sur ce sujet. Au niveau de la comparaison, dans un message j'ai intitulé, le proverbe dit comparaison n'est pas raison, qu'en dit la Bible? Alors, pour répondre à cette question, j'ai structuré ma présentation en trois points. On va d'abord s'arrêter sur, alors je vais revenir en arrière, hein, sur l'enseignement de la Bible. Sur l'enseignement de la Bible, vous verrez, j'étais émerveillé de voir ce que la Bible nous enseignait à ce côté-là. Je vais vous le partager. On va s'arrêter sur notre réalité humaine, terrestre et quotidienne, dans laquelle on se reconnaîtra tous. Et le dernier point, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Une interpellation pour aller de l'avant, puis en faire quelque chose. Alors voilà, on s'arrête sur la première partie, l'enseignement de la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, en cherchant dans l'Ancien Testament, ou dans la Bible en général, j'ai constaté que ce terme de comparaison, il n'est pas si utilisé que ça. Dans l'Ancien Testament, ce que j'en ai retenu, c'est la grande difficulté de l'homme à appréhender Dieu, à savoir qui il est, à le comprendre, à le connaître. Et dans ce sens-là, je vous donne deux versets qui illustrent cette difficulté humaine que j'ai retrouvée dans l'Ancien Testament. Le premier verset, c'est le psaume 89, verset 7.
Qui dans le ciel est égal à toi, Éternel? Qui donc est semblable à toi? Qui parmi les dieux?
Et un deuxième verset dans Ésaïe 40, verset 18.
À qui comparerez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous?
Alors ces deux versets, c'est un condensé de cette difficulté que l'homme a à appréhender Dieu, à se le saisir. Et ces deux versets, pour moi, ils illustrent très bien cette dimension du tout autre que Lita Basset utilise dans ses livres quand elle parle de Dieu, ce tout autre. Parce que ça ouvre, il est au-delà de ce que je peux imaginer, de ce que je peux comprendre, de ce que je comprendrai toujours. Moi, j'aime parler à Dieu ou parler de Dieu comme étant ce tout autre, hein, par rapport à cette dimension-là. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Dans le Nouveau Testament, Jésus, un peu comme s'il connaissait notre difficulté à appréhender Dieu, il nous fait le cadeau de 39 paraboles. 39 paraboles où il fait des comparaisons. Et là, il y en a beaucoup. Et en les relisant, en me préparant pour ce message, j'ai constaté que 27 d'entre elles nous donnaient des clés pour comprendre la réalité du ciel, le royaume de Dieu, qui était Dieu. Et une vingtaine nous donne des clés pour comprendre comment Dieu aimerait que nous agissions, quelle serait notre bonne attitude en faisant des comparaisons. Et là, on est en plein dans les comparaisons. Et donc cette mine de comparaison dans la parole, je vais vous la partager. J'ai trouvé que c'était juste quelque chose de délicieux pour faire un bout de chemin sur ce terrain de la comparaison. Alors je visualise ce que j'ai découvert de cette façon-ci, hein. Il y a d'un côté la réalité du ciel avec ce tout autre, avec ce Dieu avec lequel on aimerait être en relation, qui a envie d'être en relation avec nous. Et puis d'un autre côté, il y a ma réalité humaine, terrestre, avec mes limites, mes difficultés. Et j'ai donc 27 paraboles qui m'aident à comprendre cette réalité du ciel. Et j'ai 20 paraboles qui m'aident à comprendre le regard que Dieu a sur moi, dans l'amour qui est le sien sur moi, pour accueillir la bonne attitude, celle avec qui est faite, qui est dirigée par les valeurs du ciel. Alors, c'est ce sur quoi j'ai envie de nous arrêter aujourd'hui. Et ben, je vous propose que nous regardions d'abord quelques perles sur quelques paraboles qui nous aident à comprendre la réalité du ciel. Et le premier exemple que je vous suggère, eh bien, c'est Matthieu 13, verset 44. Un verset.
Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre. Il le cache de nouveau. S'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ.
Un seul verset à partir duquel ben, je peux conclure que le royaume de Dieu qui nous est promis en héritage est quelque chose de très précieux. Qui n'a jamais joué quand il était gamin, à chercher un trésor, imaginer, enfin, il y a tout plein d'histoires sur les trésors. Eh bien, les amis, nous sommes héritiers d'un trésor, de quelque chose de précieux. Voilà un élément, une touche dans un verset qui nous est donné par rapport à cette réalité du ciel. Un deuxième exemple dans Matthieu 13, 33.
Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilos de farine. Et à la fin, toute la pâte lève.
Alors, si on reste à un niveau très culinaire, eh bien voilà, hein, très peu de levain, un gramme, c'est rien du tout, fait lever une grande quantité de pâte. Si je prends un peu d'auteur, eh bien je peux me dire, tiens, un tout petit peu d'ingrédients du ciel, d'éléments divins dans ma vie peuvent changer tellement de choses, chez moi, chez les autres. Voilà, avec là c'est un deuxième verset qui en une phrase, hein, nous donne quelque chose tellement fort. Un troisième exemple par rapport à la découverte de la réalité du ciel, c'est Matthieu 25, 31 à 36. On va d'abord lire 31 à 34 seulement.
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. »
Alors on lira les derniers versets après. À partir de la première partie de cette parabole, ben, je peux conclure d'une façon très factuelle, hein, qu'il y aura deux groupes, celles et ceux qui pourront entrer dans le royaume de Dieu, celles et ceux qui ne le pourront pas. Alors, n'en déplaise à ceux qui disent le contraire, mais c'est ce que nous dit la Bible. Hein. Nous comparons à des boucs et à des brebis. Ben voilà, il y aura des boucs et des brebis. Alors, c'est des choses fortes, mais qui nous parlent de ces vérités célestes. Et je trouve juste fabuleux que dans les comparaisons qu'ils nous ont faites avec des images de tous les jours, Jésus, dans ses paraboles, nous donne des clés qu'on peut s'approprier. Alors après ces trois exemples qui nous donnent des clés pour appréhender la réalité du ciel, je vous propose qu'on s'arrête sur quelques autres exemples qui nous aident à comprendre quelles sont les attitudes que Dieu attend de nous. Alors, premier exemple, c'est la suite de ce qu'on vient de lire là, ce sont les versets 34 à 36.
Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. »
Alors je trouve que c'est une belle parabole parce qu'elle nous parle à la fois du ciel et puis de nous et de la bonne attitude à avoir. Et si je devais résumer ces quelques versets qui viennent d'être lus, eh bien, j'entends juste notre Père Céleste qui nous dit, ben, réponds aux besoins des personnes qui sont en face de toi, que tu croises. Je mettrai sur ton chemin des personnes, aie l'intelligence de réfléchir à leurs besoins. Est-ce que tu es en mesure d'y répondre ? Ben, fais ta part. et il ne nous demande rien de plus. Et c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que c'est de l'ordre du possible. Il ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande de répondre aux besoins des personnes qui sont sur notre chemin. Deuxième exemple, Matthieu 5, les versets 14 et 15. C'est la première parabole que Jésus a dite.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
De nouveau, une image très simple, au travers de laquelle j'entends Jésus m'inviter à être une lumière dans ce monde. Jésus nous demande d'être une lumière dans ce monde. À noter au passage qu'il ne nous demande pas de changer le monde. Ce serait bien trop lourd. Là, on serait dans le domaine de l'impossible. Et combien de chrétiens s'épuisent à vouloir changer le monde, tandis qu'on leur demande juste d'être une lumière. C'est quand même plus simple, plus facile. Hein? Et Jésus nous demande rien de plus que d'être une lumière dans ce monde. Troisième exemple, on sort de l'évangile de Matthieu qui foisonne de paraboles. On va dans Luc 14, les versets 28 à 30.
En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. « Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. »
Eh oui, au travers de ce texte, je constate que nous sommes appelés à réfléchir et à assumer notre part de responsabilité dans la gestion des choses de ce monde. Dieu, avant de faire sa part, nous demande de faire la mienne, nous demande de faire la nôtre. Et je pense que c'est quelque chose qui est valable non seulement pour compter les dépenses, hein, mais dans toute chose, que nous ayons cette sagesse qui nous est transmise dans cette parabole, de réfléchir à notre part à nous, avant de nous attendre à ce que Dieu fasse la sienne. Ce qui est sûr, c'est que on peut faire équipe avec Dieu, mais on a notre responsabilité individuelle, hein, à mettre en route. Alors, en résumé, en guise de conclusion pour cette première partie dans laquelle j'essaye de voir ce que la Bible nous disait en matière de comparaison. Alors, je dis oui, la Bible, c'est OK de faire des comparaisons dans deux domaines pour mieux comprendre les réalités du ciel et puis pour m'aider à comprendre l'attitude que Dieu attend de moi. Et pour ça, les paraboles, c'est juste une mine extraordinaire. Moi, je vous encourage, prenez une fois le temps de toutes les relire. C'est juste délicieux de voir ce qui nous a été donné comme clé pour ça. Voilà, on va passer à la deuxième partie, notre réalité humaine. Ce que je constate en matière de comparaison, et c'est ce qui m'a fait amener sur ce thème, c'est que on est bon pour comparer, on est des champions, on était préparés dès notre enfance à chercher des différences et à comparer. Je vous montre là un petit jeu des différences, enfin que j'ai piqué sur une revue qui m'est passée entre les mains. Vous trouvez ça dans des quotidiens. Enfin, on nous apprend à chercher les différences pour dire ah ben ça, celui-là, c'est pour dire que ça fait partie d'une culture. Et on compare les prix, on compare les produits, on fait des classements. À l'école, on fait des classements. On note, il est meilleur que l'autre. On est dans une culture de la comparaison. Et je trouve qu'elle nous joue des tours par rapport aux valeurs célestes. Alors, c'est ce sur quoi je vis que nous arrêtions, parce qu'on est pris dans certains pièges par rapport à ça. La bonne nouvelle, c'est que ben, c'est quelque chose de normal, enfin quelque chose d'humain. Alors dans les évangiles, les disciples, ben, ils étaient aussi dans cette dynamique-là. Et il y a ce texte merveilleux dans Luc 9, 46 à 48, ben, où on voit qu'ils étaient aussi dans la comparaison.
Il s'éleva entre eux une discussion. Il s'agissait de savoir lequel était le plus grand parmi eux. Jésus, qui connaissait les pensées qu'ils avaient dans leur cœur, prit un petit enfant par la main, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille cet enfant en mon nom m'accueille moi-même, et celui qui m'accueille accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui sera le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. »
Alors moi, ça me bouleverse d'entendre la réponse de Jésus. Ces disciples, ben, ils me rassurent, ils sont dans cette même sensibilité, ils comparent, et puis ils font des classements. Et Jésus, pour leur répondre, il renverse complètement leur raisonnement. C'est le plus petit à nos yeux qui en réalité est le plus grand dans le ciel. Et moi, je trouve que c'est une leçon juste formidable, qui est forte, c'est une claque, mais qui est faite par Jésus, dans l'amour. Il n'est pas en train de les engueuler, il est en train de leur faire réaliser que leur façon de voir le monde, de se voir les uns les autres, ben, ce n'est pas la même que la sienne. Il y a un autre passage qui nous montre cette même chose, c'est celui de la veuve qui donne deux pièces dans le tronc du temple, Marc 12, 41 à 44.
Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa deux petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Eh oui, nous avons un regard sur les personnes, comme les disciples avaient là, et sur le monde, qui nous fait faire des comparaisons, mais que Jésus bouscule. Il voit les choses exactement à l'inverse de nous. Alors, je trouve que c'est une bonne leçon pour nous souvenir de ça quand nous tombons dans le piège de la comparaison, hein. Ça me fait en tout cas faire une première conclusion dans cette partie où j'essaye de décrire notre réalité humaine. Le regard que nous portons les uns sur les autres ne correspond pas à celui de Jésus. Donc, gardons-nous donc de comparer les uns entre les autres. Gardons-nous aussi de nous comparer nous aux autres, parce que ça nous met souvent dans une posture soit supérieure, soit inférieure, qui n'est pas celle que Jésus a pour nous. Et puis méfions-nous aussi du regard qu'on se porte sur nous-mêmes. C'est souvent pas le même que celui de Jésus et on se trompe. Je vous invite à faire très attention à ça. Je crois que c'est vraiment un piège de l'ennemi de nos âmes, hein, de nous faire passer à côté des réalités du ciel, nous faisant voir les choses autrement que ce que Jésus les voit. Et je ne peux pas me retenir de faire un petit moment, enfin de passer quelques minutes sur une question importante au niveau des dons spirituels. Ça, c'est donc une mise en garde en matière de comparaison qui est propre à l'Église. Vous avez là les 20 dons spirituels qui ressortent de 4 textes du Nouveau Testament. Je vais pas m'y arrêter. L'idée, c'est juste de se dire, ben attention, il y a plusieurs pièges en matière d'Église aussi dans ce domaine des dons. Alors, et je crois qu'il y a 3 pièges principaux dans ce domaine de la comparaison des dons. Le premier point d'attention, c'est que nous avons tendance à accorder davantage de valeur aux dons qui sont les plus visibles. On tombe dans ce premier piège que nous accordons plus de valeur aux dons qui sont censés briller sous les projecteurs, tels que le don de diriger ou d'enseigner. Si nous avons ces dons et que nous nous comparant aux autres, nous risquons de développer un esprit orgueilleux. Et puis si nous nous comparons à ceux qui ont des dons plus visibles que nous, nous pouvons nous sentir inférieurs. Et ces deux tendances, eh bien, ce sont des signes que nos cœurs ont besoin d'une mise au point dans l'amour. En effet, un don visible ne signifie pas du tout, mais pas du tout, qu'il soit meilleur qu'un autre. Une telle comparaison, elle n'est pas du tout conforme aux valeurs du ciel. Donc attention, ça c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est attention en particulier par rapport au don d'évangélisation. Il n'est pas donné à tous les chrétiens, même quand ils fréquentent des églises qui se disent évangéliques. Et ce don d'évangélisation, il suscite souvent la comparaison. Les personnes qui ont ce don, ils ont juste la capacité d'amener beaucoup de personnes à Christ, puis d'être des relais qui permettent à des personnes que ça fasse tilt, puis de découvrir Jésus. Et les croyants qui n'ont pas ce don, ben ils peuvent se sentir très rapidement incapables en comparaison avec ces personnes-là. Alors à titre personnel, moi j'ai pas reçu ce don d'évangélisation. Mais je vous promets que quand j'ai réalisé que c'était pas qui m'était pas donné et que j'avais pas besoin de chercher à copier ceux qui avaient ce don-là, eh bien moi j'ai un grand poids qui s'est enlevé. En me disant, bah, tiens, je peux me contenter, mais oui, tiens, c'est ce que tu me demandes, papa. Je peux juste mettre au service les dons que tu m'as donnés. Il y en a d'autres qui ont d'autres dons. Et puis, ça suffit, tu me demandes rien d'autre. Je dois pas rechercher forcément ce don d'évangélisation, même que j'ai une sensibilité évangélique et puis que je fréquente une assemblée évangélique. Donc voilà, si ça peut vous aider aussi à vous sentir libre, à exprimer les dons qui sont les vôtres, eh bien, tant mieux. Et puis il y a le piège de l'orgueil. L'orgueil qui pourrait nous faire penser que les dons qu'on a reçus sont plus importants que ceux des autres. J'ai lu quelque part, et je trouvais beau comme formulation, il n'y a pas de chef-d'œuvre de seconde classe dans la galerie d'art de Dieu. Hein, c'est beau, il n'y a pas de chef-d'œuvre d'art de seconde classe dans la galerie d'art de Dieu. Certains rôles peuvent être moins populaires que d'autres, à nos yeux, pour nous, dans nos valeurs humaines. Les orgueilleux peuvent mépriser certains genres de service, mais la parole de Dieu dit que toutes les parties du corps sont importantes et qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Et à ce propos, il y a un texte biblique incontournable qui résume tout ça, c'est 1 Corinthiens 12, 21 et 22.
C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires.
Voilà, on pourrait paraphraser ce dernier verset et dire que les dons qui nous paraissent insignifiants sont particulièrement nécessaires. Voilà, ça me fait faire une deuxième conclusion de cette partie. Ne tombons pas dans le piège de la comparaison des dons spirituels. Et puis, soyons plutôt au clair sur les dons qui sont les nôtres, mettons-les en pratique, quels qu'ils soient, sans en faire de classement ou de comparaison. Voilà l'invitation de ce matin par rapport à cette difficulté, on va dire, très ecclésiale. Hein. Voilà, on arrive à la partie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Pour essayer de s'approprier quelque chose. Alors, pour résumer mes propos en guise d'interpellation très concrète, ben j'ai envie de dire ceci. Oui, le proverbe a raison. Comparaison n'est pas raison. Et la Bible, elle donne un éclairage intéressant pour comprendre ça. En effet, il y a d'un côté la réalité du ciel avec Dieu, notre Père Céleste, tout autre. Et d'un autre côté, il y a moi, il y a nous, dans notre réalité humaine. C'est tout à fait OK d'utiliser les comparaisons que nous donne la Bible pour comprendre et mieux appréhender les réalités du ciel. C'est tout à fait OK pour tirer profit des comparaisons que nous donne Jésus pour m'aider à comprendre quelle est la bonne attitude que mon Père Céleste attend de moi. Mais attention, dès que nous sortons de ce cadre vertical, puis que nous allons au niveau horizontal, puis que nous incluons les autres, ben là, ça peut se gâter. Hein, c'est pas OK de comparer les autres entre eux. C'est pas OK de nous comparer avec les autres. Et c'est souvent pas non plus OK la comparaison que je fais avec moi-même parce que Jésus me voit autrement. D'accord ? Donc prenons garde à ces points d'attention. Si vous voulez garder juste une chose de ce que je vous ai apporté ce matin, gardez cette image dans l'œil. Jésus voit les choses différemment de nous. Et si je devais encore résumer tout ça, eh bien, je dirais que la seule comparaison que nous pouvons faire sans réserve, mais vraiment sans réserve, c'est de chercher à ressembler à Jésus. C'est Jésus qui doit être pour nous notre seul modèle, notre seule référence, notre seule comparaison. Et au-delà de ce choix que je vous invite à faire ce matin, en ne cherchant à ressembler qu'à Jésus, j'aimerais que nous soyons tous en vigilance hein, par rapport à toutes ces situations où on fait des comparaisons. Un peu comme si on pouvait acquérir et grandir en maturité en ayant en nous une sorte d'alarme qui se déclenche. Quand on est dans une dynamique de comparaison, attention, stop, tu risques de tomber dans un travers propre à ta réalité humaine qui ne correspond pas à la réalité du ciel. Que nous ayons ce réflexe-là et qu'on demande à l'Esprit ensuite de nous aider puis de pouvoir accueillir le regard de Jésus sur cette situation-là. Et pour terminer, le dernier verset sur lequel, ou les derniers versets sur lesquels je vous propose de nous arrêter, eh bien, c'est aussi une parabole, c'est celle de la maison bâtie sur le roc et sur le sable. Il y a une jolie chanson aussi qui l'illustre, Matthieu 7, 24 à 27.
Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé, sage, intelligent ou prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans les mettre en pratique ressemble à un homme assez fou, insensé ou stupide pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète.
Alors voilà, je nous pose la question, hein. Voulons-nous ressembler à quelqu'un de fou, d'insensé, stupide, ou à quelqu'un de sage, de sensé, d'intelligent, prudent? C'est des termes, je les ai mis en jaune, parce que selon les traductions, on trouve ces différents mots. Fou, insensé ou stupide, sensé, sage, intelligent ou prudent. La différence, elle est toute petite. Le fou et le sage, ils entendent exactement la même chose. La nuance, c'est la mise en pratique. Et là, je crois qu'on peut grandir. Et c'est ce qui nous fait être, donne la possibilité d'être dans les sages, dans les intelligents, dans les personnes sensées. Alors, ce matin, je ne peux que vous inviter à mettre en pratique dans ce que vous vivez. Je m'inclus vraiment dans ce que j'ai apporté là. L'une ou l'autre des choses que j'ai essayé de vous partager ce matin à la lumière de ce que la Bible nous dit en matière de comparaison. Amen.